Donc, troisième étape du pardon, partager sa blessure avec quelqu'un, avec un ami de confiance ou un conseiller plein de compassion, éviter le bavardage avec l'offenseur quand c'est possible. Et après avoir pris du recul, le sentiment d'être pardonné, c'est le sentiment d'être aimé. Alors, c'est vrai que c'est toujours important d'objectiver la blessure. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose d'objectif? Ou est-ce que c'est ma susceptibilité, mon ego, mon égoïsme qui a été blessé? C'est pas tout à fait pareil. Est-ce qu'il y a matière objectivement à pardon et donc aussi qu'à... Est-ce qu'il y avait eu vraiment offense? Ou est-ce que simplement on m'a remis à ma place et que moi je me suis senti, voilà, je suis monté sur mes grands chevaux et j'ai dit, ben non, moi je suis ceci, ceci, cela, et j'estimais être blessé alors qu'au fond on m'a remis à ma place. C'est pas pareil. Donc c'est important la présence d'un tiers aussi qui vient objectiver les choses, surtout en matière de blessures et d'offenses, parce que on a du mal. Ça nous a tellement touchés. Ça nous a tellement fait mal que forcément on n'est pas objectif. Forcément. Et donc, peut-être on demande une réparation qui est excessive, peut-être on demande à l'autre un pas à faire qui est disproportionné. Voilà. Donc, ce que dit le père Montbourquette, je trouve ça intéressant de dire partager sa blessure avec quelqu'un. Alors, mais éviter les bavardages, c'est pas dans le sens de bavardage, c'est pas dans le sens de jacasser, je veux dire, c'est pas dans le sens de critiquer ou répandre une mauvaise réputation sur l'autre. Sans que tu savais comment est mon beau-père, comment ma belle, surtout les belles-mères, pauvres femmes. Mais un jour, on est la belle-mère de quelqu'un, donc du coup, on se calme un peu. Donc du coup, on finit par finalement être un peu plus, c'est ça, charitable, et voilà. Et voilà, et ce sont des personnes comme les autres. Mais attention au bavardage. C'est pas le fait de se répandre, vous voyez. C'est pas le fait de se répandre auprès d'autres. Tu savais ce que m'a fait, qui va être la source du pardon, c'est juste le fait de partager sa blessure avec quelqu'un, en particulier des personnes de confiance. Dire à ton avis, est-ce qu'il y a objectivement une offense? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Le quatrième point, c'est identifier ce qui m'a blessé pour en faire le deuil. Quatrième point, donc, identifier ce qui m'a blessé pour en faire le deuil. Qu'est-ce qui nous a atteint? Qu'est-ce qu'on a perdu? Quelles sont les valeurs ou les domaines de notre vie où on a été touché, offensé? On reconnaît qu'on a été offensé, c'est la deuxième étape. La troisième, on le partage. Et ensuite, on identifie, voilà, ça m'a fait perdre la joie. Ça m'a fait perdre la confiance. Ça m'a fait perdre... l'accueil de l'autre. Donc c'est intéressant de découvrir aussi que dans cette quatrième étape, il y a un deuil à faire d'une manière ou d'une autre. Un deuil à faire d'une certaine perfection, un deuil à faire d'un certain amour propre. Mais au-delà de l'amour propre, peut-être un deuil à faire voilà, de ce que j'ai perdu dans la bataille, parce qu'on laisse des plumes. Je laisse des plumes. Et bon, eh bien, je sais que ces plumes-là, je les récupérerai pas. Je n'en sortirai pas indemne du pardon. Cinquième étape, accepter la colère. Il est souvent néfaste de refouler sa colère, dépression, maladie somatique, critique hargneuse, bouderie, cynisme. La colère, une fois canalisée, maîtrisée, peut devenir, dit le père Montbourquette, une force mise au service d'un plus grand amour. Forcément, quand on a été blessé, on est en colère. Forcément. Ça ne peut pas être autrement. Ce ne serait même pas logique autrement. Accepter sa colère. Dire « j'ai de la colère » contraint-elle à nommer cette colère. La colère, elle est présente dans deux cas. Premièrement, dans le cas d'un bien qui est menacé. Deuxièmement, dans le cas qu'un mal est présent. Donc premièrement, dans un cas où un bien est menacé, le bien, comme par exemple la communion dans ma famille, l'intégrité de mon couple, la réputation de quelqu'un qui m'est cher, un bien qui est menacé, ou dans le deuxième cas, quand un mal est présent, quelqu'un qui s'attaque à mal, comme par exemple, évidemment, on ne peut pas ne pas penser à des personnes qui veulent agresser, toutes les formes d'agression, agression verbale, agression physique, harcèlement. Vraiment, il y a quelque chose, non seulement c'est une menace, mais là, on est passé plus loin. Il y a eu un mal, il y a eu quelque chose d'objectivement mauvais qui a été accompli contre moi ou contre ceux que j'aime. On a cassé un de mes enfants à l'école, par exemple. On l'a complètement mis de côté. On s'en est moqué. Donc c'est plus simplement une menace, on est passé à l'acte. Donc c'est intéressant de se dire que accepter sa colère fait partie des étapes du pardon. Quand on souffre, c'est normal d'être en colère. Parce qu'on n'est pas fait pour le mal, on n'est pas fait pour la souffrance, on n'est pas fait pour ces menaces sur nous-mêmes, notre intégrité ou celle de notre famille. On n'est pas fait pour ça. Il y a quelque chose qui en nous se révolte. Le sixième point, dit le père Monbourquette, c'est se pardonner à soi-même. Prendre conscience de la haine de soi-même. Le principal obstacle qui nous empêche de pardonner, c'est l'incapacité de se pardonner. On se culpabilise, on se sent fautif, on se dévalorise, on éprouve quelques difficultés à s'aimer. C'est vrai que lorsqu'on reçoit dans notre cœur de la haine, on ressent dans notre cœur de la haine, de la violence, de la... Alors peut-être vous avez été épargné, vous avez eu une vie plutôt paisible, ou pas, je ne sais pas vos histoires personnelles, mais quand vous avez expérimenté ça, parfois on s'en veut de ressentir ce qu'on ressent. On s'en veut de ressentir ce qu'on ressent. Mais pourquoi est-ce que je suis si mauvaise au fond? Pourquoi j'ai tellement de violence contre... Je me surprends à avoir des pensées, mais horribles. Donc, se pardonner à soi-même, de dire, ça fait peut-être partie du chemin que de reconnaître ces pensées horribles. Alors, on fait tout pour qu'elles ne passent pas à l'acte, évidemment, parce que ça ne solutionnerait, on ne rajoute pas... On ne guérit pas la souffrance par la souffrance, évidemment. Donc on ne va pas rajouter à la souffrance, en se vengeant, en passant à l'acte dans nos pensées. Mais même le penser, quelque part, nous blesse. Et donc le père Monbourquette, il dit, c'est intéressant, se pardonner à soi-même, parfois aussi, je pensais pourtant être une bonne chrétienne, je pensais être quelqu'un de fiable, quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, quelqu'un d'honnête. Et puis tout d'un coup, il y a tout un océan de violence qui vient dans mon cœur et qui m'envahit, qui me submerge. Je me dis, mais comment est-ce que je peux penser des trucs pareils? Même les pensées. Septième étape, comprendre l'offenseur. Comprendre l'offenseur ne signifie pas l'excuser ou encore moins le disculper. Le comprendre, c'est porter un regard lucide sur lui pour saisir toutes les dimensions de sa personne et les motifs de sa faute. Donc, comprendre l'offenseur, ce n'est pas l'excuser, encore moins le disculper, c'est comprendre, porter un regard lucide sur lui pour saisir toutes les dimensions de sa personne et les motifs de sa faute. Au fond, moi j'ai toujours demandé cette grâce au Seigneur, comme aumônier de prison, de... Ça ne s'est jamais fait, mais bon. Mais je crois que c'est en grande partie la solution à 80% de la délinquance que l'on connaît aujourd'hui, qu'il y ait une rencontre entre l'offenseur et l'offensé, entre l'agresseur et l'agressé. Que chacun puisse se reconnaître comme une personne. La prison, oui, dans certains cas, mais dans 80% des cas, ça ne sert à rien. On le sait bien, la prison, c'est l'école du crime. On est aux côtés de ceux qui sont plus expérimentés que nous dans le mal. Surtout quand on est jeune, primo-délinquant, a fortiori mineur. Ça ne veut pas dire qu'on laisse aller. Est-ce qu'on met en place quelque chose où chacun se reconnaît comme personne ? Pour ça, les anglo-saxons sont plus doués que nous. Nous, on a plus de mal à se parler. Et dans les pays anglo-saxons, en particulier au Canada, par exemple, qui est très en avance pour tout ce qui est médiation, donc en dehors de la justice, pour les petits délits, les petits, voilà, je ne parle pas des crimes, mais des choses trop graves, viols et compagnie qui ont atteint... Bon, dès que ça trouble l'ordre public, forcément, il faut un jugement, un procès. Mais... Ils ont mis en place, comme ça, j'ai vu ça dans un reportage, c'était au Royaume-Uni, je me demande si c'était pas même des petits délits comme ça, des petits larcins, ou des incivilités, des petits vols à l'arraché, sans que la personne ait été bon, ou des insultes, ou des bon. Il dit, ben voilà, on va faire une petite commission, et il y aura chacun, les deux parties, agresseurs, agressés, ils seront présents. Et pour certains jeunes, en tout cas le témoignage disait ainsi, le fait d'entendre de la bouche de l'autre « je te pardonne » le larcin que tu as fait, encore une fois, on ne parle pas de choses très graves, mais 90% des jugements, ce n'est pas des choses très graves, ce n'est pas des choses... Heureusement, il n'y a pas que des crimes, mais il n'y a pas des crimes tous les jours, ou des viols, ou des très très grosses atteintes à l'ordre public et à la dignité personnelle. Mais en revanche, oui, il peut y avoir, voilà, on arrive, on casse quelque chose, on tague la boutique de quelqu'un, ou on manque de civilité, des incivilités. Et au fond, le fait d'entendre dire « je te pardonne » pour ces jeunes-là, qui bien souvent, je veux dire, bon, les chiens font pas les chats, c'est des personnes qui viennent d'une grande misère aussi, morale, ce que le pape Jean-Paul II appelait la structure de péché. Quand j'étais en Argentine, tous les prisonniers venaient des bidonvilles, c'est quand même étonnant. Les autres, non. Ils n'ont pas d'enfants, ils ne commettent pas de... Il n'y a rien. Et je trouve ça intéressant de dire, au fond, que la rencontre de chacun... De voir, de comprendre l'offenseur, de rencontrer l'autre comme une personne, de le découvrir comme, non pas comme quelqu'un qui est capable simplement de faire le mal, mais de connaître son histoire. Lui demander un changement. Oui, le pardon, c'est pas sans exigence. C'est pas, vas-y, t'es bien gentil, mon petit gars, recommence. Non. C'est pas pardonner, ça. Le pape François, c'est intéressant, lorsqu'il parle de la confession, il dit, il y a deux classes de confesseurs. Il y a ceux qui disent, mais non, mais c'est pas grave. Il y a ceux qui te condamnent tout de suite aux enfers et te disent, c'est un péché mortel. Il dit, aucun des deux n'est un bon confesseur. C'est pas celui qui te dit, mais non, continue mon grand, ma grande, à mentir, mais non, mais ce sont bons, voilà. Qui ne l'a pas fait, et puis, etc. Non, c'est pas ça le bon confesseur. Mais c'est pas celui non plus qui te met sur les épaules un joug et une culpabilité telle qui t'empêche d'avancer. C'est celui qui reconnaît l'offense. Et oui, il y a eu quelque chose, il y a quelque chose à travailler. Si tu peux aller au-delà de ça, si tu peux, voilà, ce mensonge-là, c'est un mensonge. Cette injustice-là, c'est une injustice. Le pape François est très, très sensible aux injustices, en particulier en matière sociale. Il raconte souvent cette histoire de cette femme qui, moi je vois très bien le style, en Argentine, va le voir, il était évêque de Buenos Aires. Ah bon, Monseigneur, nous sommes une famille de grands catholiques, etc., etc. Ah, d'accord, très bien. Vous avez une femme de ménage? Oui, oui. Vous la déclarez? Ah ben d'accord, si vous allez par le détail quand même maintenant, vous voyez, et lui dit la cohérence de vie, l'importance de la cohérence de vie. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de découvrir justement que comprendre l'offenseur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu offense. Ça veut dire, tu m'as fait du mal. Est-ce que tu comprends le mal que tu m'as fait? Tu es rentré chez moi, tu m'as fait peur, tu as abîmé un bien que j'ai peut-être mis des années à acquérir, tu m'as insulté dans la rue, tu m'as pris un sac comme ça à la tire, vol à la tire, et puis j'ai dû, voilà, et je suis tombé, que sais-je. Est-ce que tu comprends le mal que tu m'as fait? Et ça, je pense qu'en France, il faudrait qu'on mette en place des trucs comme ça. Des lieux de parole qui ne sont pas du domaine judiciaire peut-être, mais justement, il y a pour des petits délits, des petits, voilà, des infractions, délits, qui est encore une fois 80% de ce qui arrive, eh bien voilà, je sais pas quoi, des questions de copropriété, par exemple. Je me rappelle quelqu'un qui travaille dans. Je lui dis, mais est-ce que cette copropriété est problématique? Il me dit, c'est un pléonasme de dire copropriété problématique. C'est pratiquement synonyme. Mais voilà, des questions de copropriété, par exemple. Bon, il n'en va pas quand même notre intégrité physique, comme d'un meurtre, évidemment, ou d'une blessure grave, ou a fortiori d'un viol. Là, il faut vraiment que la justice s'en saisisse. Plein de choses pourraient se résoudre autrement. Ça veut dire que celui qui a le droit pour lui, quelque part, il renonce. Pour laisser la place au dialogue avec l'autre. Je me souviens comme ça de cette femme. Bon, il y a eu... très proche de notre communauté, et dont la fille avait été blessée par un chauffeur ivre de camionnette qui était passé sur le corps de cette jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle était restée handicapée, en tout cas avec pendant plusieurs mois à l'hôpital, à la salpêtrière, à mettre un bassin artificiel, et puis pour une femme, vous voyez ce que ça veut dire, et puis aujourd'hui elle s'est mariée, mais bon, en termes de maternité, tout est suspendu. Et puis les parents, profondément chrétiens, vont voir l'agresseur, demandent à lui parler, il a été condamné, il était ivre au moment à 10h du matin. Et bon, évidemment, je pense qu'il a été condamné, peut-être pas, je ne me rappelle plus si c'est de la prison ou quoi, mais du coup, il dit, mais écoutez, on vous souhaite de vous relever de cette épreuve. Alors que c'était eux qui étaient dans l'épreuve. Eux, les parents, ils vont le voir. On vous souhaite de vous relever. Ça, c'est des chrétiens. C'est des chrétiens. Le souvenir du geste offensant conditionne notre regard sur l'offenseur et le met dans une position où il est incapable d'évoluer. C'est excellent, c'est-à-dire. Le souvenir, c'est-à-dire, il faut aussi laisser à l'autre la chance de changer. Un mensonge ne fait pas un menteur. Un vol ne fait pas un voleur. Et c'est Aristote qui dit, quand il parle de la morale, il dit, le vice comme la vertu demande la multiplicité des actes. Lui laisser la capacité de changer, ça c'est très bon ça. Il nous est difficile d'appliquer la parole de Jésus. Ne pas juger ne signifie pas ne pas se servir de sa capacité de jugement, mais plutôt ne pas s'en servir pour condamner. Ne pas s'en servir pour condamner. Il n'est pas interdit d'être intelligent, c'est même plutôt recommandé. Mais au moins que cette intelligence, si on voit la fragilité de l'autre, ne soit pas utilisée pour condamner. L'intelligence est une lumière. Et nous croyons que cette lumière vient de Dieu. Mais que cette lumière ni n'aveugle et encore moins empêche l'autre d'avancer. Alors que l'on reconnaît, on jette la lumière sur sa propre fragilité, sur son propre défaut. Une meilleure compréhension des antécédents familiaux, sociaux et culturels d'une personne aidera à lui pardonner. Comprendre une personne, c'est accepter de ne pas tout comprendre. C'est pas mal ça. Comprendre une personne, c'est accepter de ne pas tout comprendre. Au fond, c'est intéressant de se dire que comprendre l'offenseur, c'est aussi dire qu'il y a quelque chose du mystère qui nous échappe et que il y a des choses qu'on ne pourra, ben voilà, comprendre que dans le face-à-face avec Dieu et que qui appartiennent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une justice à faire, mais ça veut dire simplement que parfois il y a des gestes qui sont incompréhensibles, quoi. Même si on analyse les antécédents familiaux, sociaux, culturels, on n'arrive pas à comprendre comment telle personne ait pu poser tel acte. Comprendre une personne, c'est accepter de ne pas tout comprendre. La huitième étape, dit le père Montbourquen, c'est trouver dans sa vie un sens à l'offense. Personne d'autre que soi ne saurait parvenir à trouver un sens à la perte que l'on vient d'encourir. Une aide amicale ou spirituelle peut nous être utile. Premier temps, faire le deuil de la situation précédente avant d'être offensé. J'étais bien, maintenant je suis mal. Deuxième temps, acquérir une meilleure connaissance de soi et de ses projets futurs. Troisième temps, réorganiser sa vie en fonction d'un nouveau départ. Premier temps, faire le deuil de la situation précédente. Deuxième temps, acquérir une meilleure connaissance de soi et de ses projets futurs. Troisième temps, réorganiser sa vie en vue d'un nouveau départ. Au fond, premier temps, faire le deuil de la situation précédente. Avant d'être blessé, voilà, j'étais bien, on était une famille unie, et puis il y a eu un deuil, et puis il y a eu une blessure de quelqu'un, et puis bon, voilà, on fait le deuil de la situation précédente. Bien souvent, on idéalise aussi, hein. Deuxième temps, acquérir une meilleure connaissance de soi et de ses projets futurs. C'est-à-dire, acquérir en quoi cette blessure-là va m'aider à me connaître moi-même. C'est une rentrée aussi en soi-même, l'offense. C'est ça qui aussi donne du sens. En quoi ça va me révéler en moi des fragilités, des violences, etc. Et troisième temps, réorganiser sa vie en vue d'un nouveau départ. Ben, c'est ce que je vous ai dit ce matin en parlant de Tim Guénard. C'est, voilà, je réorganise ma vie, je me relance. J'avance de nouveau. Neuvième étape, se savoir digne de pardon et déjà pardonné. Pardonner est le fruit d'un long processus de maturation et nécessite beaucoup d'efforts. Il est important de laisser tomber ses résistances, de se laisser aimer en profondeur, de recevoir le pardon des autres, en particulier celui de Dieu. Se savoir digne de pardon est déjà pardonné. Il y a des gens qui n'acceptent pas le pardon. Ce que j'ai commis n'a pas de mots. Je me souviens comme ça d'un cas dramatique, c'était un père ou un beau-père qui avait torturé son enfant de 5 ans qui en était mort. Et il disait au tribunal, ce que je mérite, c'est la mort. Il le disait lui-même. Ben, cet homme-là, il y aura certainement tout un processus pour qu'il se sente digne de pardon et déjà pardonné. Il y en a qui n'acceptent pas le pardon parce qu'ils trouvent que c'est impardonnable. Pour eux-mêmes, hein, parce qu'ils ont reconnu quelque chose. Le dixième point, c'est cesser de s'acharner à vouloir pardonner. Cesser de s'acharner à vouloir pardonner. Le pardon n'est pas d'abord une obligation morale, dit le père Bombourquette, c'est un geste personnel et gratuit. N'hésitons pas à supplier Dieu pour qu'il nous aide à pardonner. Parfois, il faut de la patience pour laisser mûrir le pardon. Je vous ai dit l'histoire ce matin de Maïti Gertamer, avec les tortures. Il faut parfois laisser du temps pour que le pardon mûrisse. Il faut de la patience pour laisser mûrir le pardon. La 11e étape, c'est s'ouvrir à la grâce de pardonner par le sacrement de la réconciliation. S'ouvrir à la grâce de pardonner par le sacrement de la réconciliation. Le pardon ne peut se faire que dans une vraie relation de confiance avec Dieu. On retrouve ce qu'on a vu ce matin dans cette dimension transcendante. Le pardon ne peut se faire dans une vraie relation de confiance avec Dieu. Au fond, retrouver une intimité avec le Seigneur qui ira au-delà de l'offense. Retrouver une pureté, une beauté, comme est celle du Seigneur, qui ne peut être entachée par l'offense. Intéressant, ouais, je me souviens justement de cette expérience de d'aumônier, et beaucoup disaient « je ne suis pas coupable ». Ils étaient en prison parce qu'ils étaient innocents, évidemment, sinon ils n'auraient pas été en prison. Donc y a comme ce désir, comment on peut dire, d'être totalement indemne au fond de faute. On voudrait être complètement indemne, on voudrait être libre de toute faute. Et la douzième étape que le Père Montbourquette met, décider de mettre fin à la relation ou de la renouveler. Le pardon n'est pas la réconciliation, on a vu ça ce matin. De mettre fin à la relation ou de la renouveler. Décider de mettre fin à la relation ou de la renouveler. Le pardon n'est pas la réconciliation, il est parfois préférable de ne pas se réconcilier. Voire il est parfois impossible de le faire dans le cas de décès, ce qu'on a vu ce matin. Mais parfois on peut renouveler une relation quand l'autre reconnaît sa faute. Et puis, au fond, aller plus loin, bon, c'est ce qu'on a peut-être déjà vu ce matin, aller plus loin dans... Donc je trouve ça intéressant, ces étapes... Il a écrit un livre, le Père Montbourquette, là-dessus, où c'est tout ça, c'est très détaillé. Vous pouvez éventuellement, si vous y reportez, si vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. Mais en tout cas, je pense que nous avons, nous, comme chrétiens, à travailler là-dessus. Non seulement à travailler là-dessus, mais à être signe pour les autres. À être signe pour les autres. À demander au Seigneur cette grâce particulière d'un amour qui va plus loin que l'offense. C'est ça que Jésus est venu nous apporter. Un amour qui va plus loin que l'offense. Déjà, il nous l'apporte dans sa personne, mais aussi dans le baptême, cette capacité que nous avons d'aller au-delà du mal. On est rendu capable d'un amour plus fort que la mort par le baptême. Vous avez peut-être des questions, mes amis. Oui. Pour se réconcilier, j'allais dire. Pardonner, on a vu ce matin que c'est une démarche personnelle. Pour se réconcilier, il faut que l'offenseur ait demandé pardon, oui. Mais pardonner, si l'offenseur ne demande pas pardon, je peux toujours pardonner. C'est-à-dire, intérieurement, faire un chemin intérieur et penser à l'autre paisiblement. Voir, mais restons modestes, lui désirer du bien. Et s'attrister du mal qui l'accable. Mais au moins, ne pas lui désirer du mal. C'est un des signes du pardon. Et, mais pour la réconciliation, oui, il faut que l'autre ait reconnu sa faute. C'est indispensable.
Pour la réconciliation.
Réconciliation. Il faut qu'il ait reconnu, ou qu'elle ait reconnu sa faute. Maintenant, c'est pas parce que l'autre reconnaît sa faute qu'il y a forcément réconciliation. Parce que j'avais, comme je vous l'ai dit, comme aumônier, j'avais beaucoup ce désir que agresseur et agressé se rencontrent. Et que les deux puissent, d'une certaine manière, avec des intermédiaires, des médiateurs, dialoguer. J'ai pas eu cette grâce quand j'étais aumônier de prison, ça s'est pas donné. Et je peux comprendre pourquoi. Un jour, comme ça, il y a la veille d'un procès, évidemment, les personnes qui sont en prison sont tout à fait promptes à demander pardon pour éviter la sentence trop lourde. Quand il s'agit de meurtre, là c'était un meurtre, un homicide. Et la personne qui commet l'homicide me dit « Est-ce que tu pourrais pas aller voir un tel ? Je sais qu'il est chrétien, dis-lui que je lui demande pardon. » Et qui ne me charge pas trop lors du procès. C'est rarement désintéressé. C'est rarement dans une démarche spirituelle pure et mystique. C'est très bon, ben, je ferais pareil. Et bon, ben, c'est que des gens, des bidonvilles, des gens très pauvres, etc. Bon, on suppose que c'était... Donc, sincère, on peut au moins laisser une porte ouverte, même si on n'est pas complètement naïf. Et donc, du coup, je vais voir la personne en tant que telle. En fait, c'est un homme qui avait tué... Il y avait deux frères célibataires, assez âgés, d'une 70 ans à peu près, agriculteurs les deux, et qui ont été agressés parce que, il faut savoir qu'en Argentine, on paye les récoltes en liquide, en espèces. Il y a un système de chèques, on ne fait pas trop confiance parce qu'ils ont été un peu vaccinés avec le système bancaire argentin. Et donc, on ne fait pas trop confiance au système bancaire. Donc, les chèques, on n'aime pas trop ça ni les virements. On préfère les dollars, les billets verts. Là, c'est du tangible. Mais c'est 30 000, 40 000 dollars en espèces. Donc, c'est des très grosses sommes. Et ils savaient qu'il avait vendu sa récolte. Qu'ils avaient, ces deux frères célibataires, qu'ils avaient vendu leur récolte et que, au fond, ils avaient l'argent chez eux. Et ils rentrent dans la ferme, etc. Et puis finalement, les agresseurs disent « Donne-nous l'argent, donne-nous l'argent !» des hommes âgés, plus de 70 ans. Et du coup, quand je vais voir celui qui a survécu, le frère qui a survécu, parce que l'autre en est mort, il m'a raconté la scène. Il m'a dit « C'est un grand gaillard, celui qui demandait pardon. » Un homme d'une quarantaine d'années, bâti comme un stentor, quoi. Une force de la nature qui a pris mon frère par les cheveux, l'a tapé la tête contre les pierres, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Tout ça sous l'effet de la drogue ou de l'alcool. Et l'autre en est mort, il n'a pas survécu. Et me dit mon père, moi je suis catholique, chrétien. Qu'est-ce que je vais faire ? Seul, dans l'agriculture, on ne peut rien faire. Pour atteler la remorque tracteur, il faut être deux. Mon frère et moi, on était comme les deux doigts de la main.
qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais vendre ma propriété, et puis je vais prendre ma retraite, mais... Mettez-vous à ma place. Moi, ma vie, elle est finie. Et donc... Bon, alors... Je n'ai pas eu l'indécence de demander est-ce que vous acceptez le pardon, parce que je sentais que c'est... Il faut aussi un temps pour ça. Mais je crois que le fait que reconnaître l'offense, c'est pas pour ça que l'autre pardonne, parce que l'autre reconnaît l'offense. Hein. En même temps, la guérison viendra par la reconnaissance et l'accueil de l'autre, du pardon de l'autre. Ça, je trouve que c'est vraiment ça, c'est la guérison viendra parce que j'ai reconnu que l'offense de l'autre, eh bien, n'a pas le dernier mot. Oui.
J'aimerais que vous précisiez ce que vous avez dit par rapport à faire le deuil de ce qui m'a blessé. Parce que de faire le deuil d'un certain amour propre, je n'en sortirai pas à peine, par contre.
Oui. Oui. Alors, c'est-à-dire faire le deuil de... Voilà, il y avait une situation que j'estime idéale, et puis il y a eu un événement qui a bousculé ma vie, qui a changé ma vie. Du coup, je fais le deuil de ça. Je fais le deuil de ce qui a pu éventuellement me blesser, de ce qui a pu bouleverser ma vie. J'en fais le deuil dans le sens où je demande au Seigneur, voilà, je ne vais pas revenir à la situation d'avant. Surtout quand il y a eu décès d'une personne. Là, le deuil à faire de cet homme-là, dont je viens de parler, mais ils étaient deux hommes, agriculteurs, voilà, ils menaient leur vie honnête, ils menaient... Ben, je fais le deuil de...
Oui.
Ah oui, alors, l'amour plante et ce qui m'a blessé. Alors, c'est vrai que... Alors, parfois, il faut faire le deuil. Alors, c'est pas sur le même degré, vous avez raison. L'offense entre l'amour propre et ce qui m'a blessé, c'est pas pareil. C'est que, d'une manière ou d'une autre, selon le degré de l'offense, imaginons que ma réputation ait été blessée. Donc, forcément, mon amour propre a été blessé. Tout n'est pas affaire de crime, heureusement. Hein. Bon, la plupart du temps, c'est une réputation, on a dit du mal, on m'a fait du mal. Et puis, mon amour-propre a été blessé. Il faut faire le deuil de cette situation où j'ai été blessé et de dire, ben voilà, même mon amour-propre a été blessé, mais je ne veux pas que ça ait le dernier mot. Quelque part, pour permettre une réconciliation, il faudra aussi accueillir le fait que j'accueille comment dire cet amour propre, mais voilà, je qui a été blessé, bien peut-être ma réputation, peut-être mon honneur, peut-être ont été mis à mal. Mais je décide d'en faire le deuil de ça. Et je ne sors pas indemne du pardon, ça c'est vrai. Je laisserai des plumes. C'est-à-dire que on reviendra jamais à la situation d'avant. Jamais. C'est pas possible, on peut pas revenir à la situation d'avant. On peut pas faire comme si rien n'avait existé. Mais, là on entend résonner dans notre tête, ou moi en tout cas moi j'entends, c'est un peu la déformation professionnelle si j'ose dire, l'exultète de Pâques, qu'est-ce qu'il dit l'exultète de Pâques? Felix culpa, bienheureuse faute, qui nous valut un tel rédempteur. Je dis pas qu'il n'y a pas eu faute, je dis bienheureuse faute, qui nous valut un tel rédempteur. Je ne veux pas revenir avant la faute. C'est juste pas possible. On ne peut pas revenir en arrière. D'autant plus s'il y a eu des actes complètement définitifs, des blessures, des physiques, des deuils physiques, etc. On ne peut pas revenir en arrière. J'ai perdu mon emploi à cause d'un mensonge. J'ai perdu mon honneur à cause de calomnies. J'ai peut-être perdu mon couple à cause de ça. On ne peut pas revenir en arrière. Donc le pardon, c'est pas revenir comme, c'est pas, on n'efface pas le tableau, hein, tu vois, le tableau noir, on l'efface pas, voilà, il n'y a rien eu. Non. Il y a eu. Je fais le deuil d'une situation qui était antérieure, qui était bonne, et c'est vrai qu'elle était bonne. Un travail, un couple, une intégrité physique, ou la vie. Et maintenant, ça n'est plus. Eh bien, j'en fais le deuil, et du coup, forcément, je laisse des plumes dans ce pardon-là. Je ne sais pas si ça s'éclaire un petit peu plus, si ça un petit peu, pas toujours facile à comprendre, mais... Se savoir digne du pardon est déjà pardonné. Oui. Se savoir digne de pardon est déjà pardonné et accent aigu. Oui, déjà être pardonné. Oui, je me sais digne du pardon et déjà pardonné. Donc, oui, parce que c'est important de savoir. En théologie, on manie une catégorie, j'allais dire intellectuelle, qui dit le déjà et le pas encore. Ça vous dit quelque chose? Déjà et pas encore. Le déjà et le pas encore, c'est déjà je suis dans la résurrection, mais pas encore dans le face-à-face avec Dieu. Déjà je suis dans la communion, mais pas encore dans une communion plénière entre nous. Oui, donc je suis déjà pardonné. On affirme le pardon. Mais pas encore accompli. Je me sais digne, du comment c'est marqué, je me savoir digne de pardon et déjà. Oui.
Pour pouvoir pardonner, il faut déjà avoir été pardonné
soi-même. Oui, d'avoir été pardonné soi-même et savoir que c'est possible. Que c'est possible. Se savoir digne de pardon et déjà pardonné. Pardonner est un long processus de maturation et nécessite beaucoup d'efforts. Il est important de laisser tomber ses résistances, de se laisser aimer en profondeur, de recevoir le pardon des autres, en particulier celui de Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas être pardonnés. Ce que j'ai commis est impardonnable.
Mais dans le processus, c'est pas celui qui a commis,
c'est celui qui commet qui dit ça. Ouais, c'est ça. Dans le processus, je me sais digne de pardon, moi qui ai offensé, moi qui ai agressé, moi qui ai tué, je me sais digne de pardon et déjà pardonné. De l'offenseur.
Mais tous les autres étapes,
les autres étapes, mais là, on parle de, aussi, c'est important pour qu'il y ait une réconciliation, là. Il faut que, parce que c'est pas l'offensé qui va se sentir déjà pardonné, ça veut rien dire. C'est l'offenseur. Il faut que, s'il reconnaît, pour le coup, d'une réconciliation, peut-être, pour être plus précis, il faut que l'autre puisse accepter ça. Il y a des gens qui n'acceptent. Il y a des gens qui ont du mal à se pardonner des choses. Ils ont du mal à se pardonner. Et on voit, encore une fois, dans les fins de vie, etc., comme il y a parfois des lucidités qui sont données et des gens qui disent ben, je demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Ça se voit. C'est des grâces en même temps. Donc, je ne sais pas si c'est plus clair, c'est bon, c'est... Bon. C'est du côté de l'offenseur. Se savoir digne de pardon est déjà pardonné.
Parce que les points sont pas toujours...
Et non. Voilà. Dans les étapes, c'est pas toujours du même côté. C'est vrai que c'est pas toujours clair. Oui. Vous vouliez dire que...
Oui, s'il vous plaît. Mais 3 points avant, se pardonner à soi-même. Et quand vous dites qu'on a honte quelquefois de ressentir ce que l'on ressent, est-ce que là on est dans l'ordre de quelque chose qu'on doit confesser en tant que...
Alors qu'on doit confesser, oui, dans le sens si on ressent de la haine, si on ressent de la violence, si on ressent... Hein, c'est le fait de sentir, déjà, c'est quelque chose dont on peut demander au pardon au Seigneur. Parce que Jésus le dit très clairement. Hein, si tu as déjà désiré la femme de ton prochain, tu es déjà adultère. Si dans ton cœur, tu as désiré la mort de l'autre, tu es déjà homicide. Tu ne peux pas passer à l'acte. Mais Jésus, il vient sonder les cœurs. Et donc, dans le fort, ce qu'on appelle le fort interne, hein, le fort interne, c'est-à-dire dans notre intimité, bien oui, je pense que c'est important, c'est le lieu, justement, la confession pour demander au Seigneur pardon pour les péchés en pensée, en parole, par action et par omission. En pensée. Alors, en pensée, parce que le problème, c'est que de la pensée, on peut vite passer à l'acte, en action et en omission. En pensée, j'ai déjà dans mon cœur pensé, c'est comme ça que vient le péché, j'ai déjà dans mon cœur pensé, envisager la chose.
Et que l'on soit l'offenseur ou l'offenseur.
Ah ben, les deux cas.
Les deux cas, parce que là, ça concerne...
À tout le monde, ça concerne tout le monde. Ah ben, c'est évident.
Même offensé qu'on est.
Même offensé qu'on est, bien sûr, on a envie que l'autre disparaisse, on a envie de lui faire du mal, qu'il paye, qu'il trinque. Mais bien sûr que c'est humain, je dis pas que c'est... Mais pardonner est divin. C'est divin. C'est pas pareil. On joue pas dans la même cour. Oui, certainement. Et c'est vrai que les chrétiens ont été quand même, bon, c'est pas les seuls à pardonner, grâce à Dieu, mais dans les martyrs, par exemple, beaucoup ont pardonné à leurs bourreaux, en face d'eux. Leur a dit, je vous aime. Je sais pas. Est-ce que j'ai le droit au joker? Quand l'offenseur ne reconnaît pas l'offense, on ne sait rien. Il faut prier. Mais on peut soi-même pardonner intérieurement, au moins. Oui. Il faut peut-être lui donner du temps, mais parfois ça ne viendra jamais.
J'ai lu cette phrase l'autre jour, comprendre, c'est pardonner. Est-ce que
c'est une étape. En tout cas, comprendre, il y a marqué là, le père Montbourquette, il en parle justement d'essayer de comprendre l'autre. Ça aide à pardonner, d'essayer de se mettre à la place de l'autre. Et ça, comprendre l'offenseur ne signifie pas l'excuser, c'est la 7e étape, et encore moins le disculper. Le comprendre, c'est porter un regard lucide sur lui pour saisir toutes les dimensions de sa personne et les motifs de sa faute. On peut comprendre l'autre, mais il y aura un pardon possible, mais pas forcément une réconciliation quand l'autre ne reconnaît pas. Non, vous avez bien vu la différence entre pardon et réconciliation.
Parfois, on peut comprendre, mais la personne, soit ou l'offenseur, ne se rend pas compte.
Non. Alors, on peut éclairer sa conscience en lui disant, écoute...
Donc, consciemment, il ne sait pas qu'il est en train de penser cette personne.
Alors, s'il est en train, on peut le lui dire... Maintenant, on peut aussi, on n'a pas à se laisser détruire, ça j'en ai parlé ce matin, on n'a pas à se laisser détruire, c'est-à-dire, on n'a pas à se laisser entamer dans son intégrité, encore moins sa famille, son honneur, il y a des limites à mettre, parfois des distances à mettre. Si l'autre ne reconnaît pas, mais là parfois c'est des questions psychiatriques aussi, je veux dire, c'est des problèmes psychiatriques. En prison, beaucoup de gens sont atteints de maladies psychiatriques. On les met en prison parce qu'on ne sait pas où les mettre. Et donc du coup, oui, c'est vrai, quand l'autre ne reconnaît pas, je peux éventuellement prier, je peux faire tout ce que je veux, mais peut-être qu'il n'a pas la lucidité, ou là il y a un orgueil, ou peut-être ça ne viendra jamais. parce qu'il n'a pas une conscience assez éclairée pour voir sa faute. Mais est-ce que ce n'est pas le cas de chacun de nous?
Quelquefois, c'est un peu aussi qui nous est donné de comprendre en quoi notre attitude à nous peut provoquer l'autre
à la violence.
À quelque chose.
Oui, on peut. Voilà. Ah, vas-y, oui, allez-y.
Vous avez juste dans. Vous utilisez le mot crime comme si c'était synonyme de meurtre.
Pas toujours.
Ah, c'est un crime, un voleur, c'est un crime.
C'est ça. C'est un crime. Les crimes et les délits, c'est ça. C'est ça. C'est au-dessus des lits. C'est pas un homicide, forcément, un crime. Donc, c'est bien. Au point juridique, merci d'avoir de préciser, les crimes et les délits, les crimes ne sont pas forcément des homicides. Donc, c'est vrai que dans la vie courante, on met les deux ensemble. Ah, oui. Alors, oui, rapidement. Dernière question. Eh bien oui, c'est ce qu'il dit. 70 fois 7 fois, ça veut dire tout le temps. C'est pour ça que le pauvre Saint-Pierre était complètement désarçonné, parce que je pense que c'est quelque chose qui est seulement que le Seigneur donne lui-même, non hein, du coup, moi je pense, c'est vrai que parce qu'au fond, si tu gardes de la haine contre ton frère, eh bien, comment avoir un contact avec le Seigneur paisible ? C'est ça ?